Bienvenue pour la suite de ce discours sur le non-soi. Anatta. C'est peut-être bien un des sujets les plus complexes à articuler. Je ne sais plus si je le disais au début de ce discours ou pas, mais j'ai bien conscience de ne pas du tout avoir une maîtrise dans le domaine. Et si je propose ces discours et cette exploration, c'est parce que je pense que mon but, en tout cas, c'est de générer des questions et beaucoup plus que d'amener des réponses. Voilà, je pense que une réelle exploration ne peut se faire que si on a des bonnes questions. Trouver les bonnes questions, c'est peut-être une des choses les plus difficiles en fait dans le dharma, c'est d'avoir les bonnes questions. Là, quand on trouve les bonnes questions, c'est ça qui vont nous donner des pistes d'exploration avec des réponses. On n'avance pas beaucoup en fait. De nouveau, comme je le disais à la fin de ce discours, ce qui a fait le génie d'Einstein avec la relativité générale, donc sa deuxième théorie quand il l'a complétée, c'est parce que il s'est trouvé devant un gros morceau d'incompréhension. Et quand on trouve, quand on bute sur quelque chose que vraiment là, à cet endroit-là, je ne comprends pas. C'est là qu'il y a la possibilité d'une grande découverte. C'est quand vraiment on sent que là, ça nous échappe complètement et qu'il y a quelque chose de complètement inconnu. C'est là qu'il y a la possibilité d'un presque parfois d'un changement de paradigme, plus que de juste de petits pas dans notre pratique. Par exemple, on entend Nagarjuna, qui était un Indien qui pratiquait le bouddhisme et qui a énormément influencé en fait la tradition bouddhiste, et qui dit ce monde est irréel, il émerge de notre imagination. Oh, ça questionne. Ça devrait questionner. Ça devrait choquer. Comme disait Niels Bohr, si, quand il parlait de la physique quantique, un des pères de la physique quantique, il disait si les théories de la physique quantique ne vous choquent pas, c'est probablement que je me suis mal exprimé. Voilà, si vous pensez, il a dit aussi, si vous pensez avoir compris la physique quantique, c'est probablement que je me suis mal exprimé. Il a dit les deux. Et donc, voilà, c'est pareil. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ce monde est irréel. Et il émerge de l'imagination. Si on veut vraiment se sentir engagé dans une quête spirituelle, alors on doit prendre ces questions-là, même si on ne sait pas quoi faire avec, même si on ne sait même pas comment débuter une recherche, on doit au moins leur faire une place. On doit au moins, elles doivent, ces questions-là doivent être quelque part dans notre pratique. À mon sens. C'est la naissance de la possibilité d'autre chose, de toute autre chose. On ne se rend peut-être pas compte à quel point ce qui nous motive profondément, c'est toute autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec peut-être nos débuts dans la méditation, peut-être qu'on cherchait quelque chose de posé ou une sensation de contentement ou de bien-être ou de diminuer cet état de stress ou d'anxiété qu'on connaît d'une façon permanente, peut-être c'était ça. Mais quand on en vient à cette question-là, c'est plus du tout ça, c'est tout à fait autre chose, même s'il y a encore un lien. Parce que la recherche, cette question nous mène, cette question du soi et de l'existence du soi, nous mène à guide notre exploration. C'est notre étoile polaire, c'est celle qu'on suit, c'est celle qui nous donne la direction de notre recherche. Dans la tradition chinoise, Lao Tzu disait: la santé est la plus grande des possessions, le contentement est le plus grand des trésors, la confiance est la plus grande des amis, et le non-soi est la plus grande des joies. Et il y a vraiment cette dimension de, quand on pratique la méditation et que peu à peu on quitte les couches superficielles de nous-mêmes, et par superficielles je ne dis pas qu'elles sont inimportantes, n'entendons pas ça, mais on existe sous plein de couches. Et quand on quitte les couches superficielles de nous-mêmes et qu'on devient un peu accoutumé au silence qui fait partie de notre existence, quand notre attention n'est plus prise dans l'affairement de notre personnalité, de nos projets et de ce qui se passe dans nos vies, quand on en vient à ce silence et qu'on est un peu accoutumé, au début pas forcément, mais quand on est un peu accoutumé, ce qu'on ressent, c'est une joie tranquille. Il y a de moins en moins de soi, il y a de moins en moins la sensation d'une existence individuelle, c'est de plus en plus universel ce qu'on ressent, on est de moins en moins une personne séparée, et en même temps, on peut voir qu'il y a une joie qui est là. Alors je dis avec l'habitude, parce qu'au début, ce n'est pas forcément évident. Il se peut qu'au début, parce qu'on n'est pas coutumier, de laisser un petit peu ce monde du passé, du futur, de ce qui vient de se passer, de ce qu'on veut faire, comment on voudrait que ça soit et de comment on voudrait être, le monde de nos projets, de nos envies, et dans lequel on est pris du matin jusqu'au soir, en fait. Si on n'a pas l'habitude, au départ, de revenir à ces espaces de silence, ça fait bizarre parfois. Et pour certains, ça fait même peur. Ça fait même, c'est tellement peu familier, en fait, que ça peut. Il peut y avoir une sensation un peu de malaise ou d'être un peu incertain de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais là. Mais après, si on y regarde bien, il y a une espèce de joie tranquille qui est là. Et elle est juste le premier petit goût, je pressens, de quelque chose d'encore beaucoup plus profond. Je ne sais pas où ça s'arrête, cette profondeur, jusqu'où on peut déconstruire. Ou jusqu'où on peut aller dans la non-construction du soi, dans le moment. Je ne parle pas de la construction du soi qui se fait comme on parle de la construction de l'ego-psychologie depuis la naissance et qui grandit, qui est super importante aussi. Je parle dans le moment. Dans le moment, le soi se construit et se déconstruit. Un mot, un reproche d'un ami et le soi est là, énorme. Il prend toute la place. Il n'est que réactivité, il n'est que sens de séparation, il est hypersensible, hyper émotif, il est solide il prend toute notre attention, sur un mot. Mais de la même manière, quand on apprend à ne plus laisser notre attention dans les projets et dans ce qui d'habitude nous hypnotise un petit peu, à ce moment-là, ce qu'on découvre du soi, c'est des espaces de silence, des grands espaces vides qu'on n'avait pas remarqués, qu'on n'avait pas laissé être. Et donc, on peut dire qu'à ces moments-là, on laisse de la place au vide, c'est-à-dire qu'on laisse suffisamment de place pour que le soi ne se construise pas. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Ce n'est pas promotionné dans nos sociétés, la non-construction du soi. De la révérence au silence. Cette manière de voir le non-soi, quand on se familiarise avec elle, qui demande un énorme travail philosophique, j'ai envie de dire, un énorme travail de réflexion, devient accessible. Au début, ce n'est pas du tout accessible. Au début, c'est « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de non-soi ? J'existe et je sais que j'existe, ça semble inquestionnable. Ça semble inquestionnable. » C'était un gros boulot pour Descartes de réussir à remettre ça en question. Plein de gens l'ont fait, on essaye de le faire, mais on ne sait même peut-être pas trop comment s'y prendre avec cette question-là. Qui suis-je? Est-ce que j'existe vraiment? Sous quelle forme? Quand on médite, on peut vite remarquer que je ne suis pas une pensée, je ne suis pas une émotion, je ne suis pas une sensation physique. Qu'est-ce que je suis? Et donc, pour pratiquer se familiariser avec le non-soi, comme je le disais, il faut déjà avoir une incertitude à propos de qui on est vraiment. Si on est sûr qu'on sait qui on est, pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le questionnement, il n'y a pas l'ouverture. On ne va juste pas pouvoir, en fait. Et puis, ça va glisser et ça va partir de notre vie, la question ne va pas rester. Si la question est là, alors il y a, dans la pratique de la méditation, il y a des manières proposées, des manières de voir, c'est de ça qu'il s'agit ici, proposées dans le bouddhisme, pour explorer le non-soi. Et ces manières de voir, en fait, c'est comme je le disais, on n'est pas obligé et il vaut mieux pas, à mon sens, j'en suis même sûr, croire que le soi n'existe pas. C'est pas important, c'est pas très intéressant, c'est pas soi ou non soi, la discussion, le débat, c'est pas très intéressant. Juste comprendre l'éventuelle possibilité est largement suffisant. Et puis, quand on comprend l'éventualité, la possibilité, à ce moment-là, on peut pratiquer. Et là, je vous lis, donc, dans la discussion qu'on avait déjà eue, un texte du bouddhisme qui s'appelle Gerimananda Sutta. Et on l'avait vu dans la première partie de ce séminaire sur la permanence. C'est la continuité de ça. Je vous l'enverrai aussi, ce texte. C'est le Bouddha qui discute avec Ananda, si je me rappelle bien, et qui explique à Ananda ici qu'est-ce que c'est la perception du non-soi, qu'est-ce qu'il veut dire par la perception du non-soi, comment est-ce que ça se pratique. Et qu'est-ce, Ananda, que la perception du non-soi? En cela, un bhikkhu c'est un moine, en cela, un bhikkhu s'étant rendu dans la forêt au pied d'un arbre ou dans un local vide, considère ceci. L'œil est sans propriétaire. Les formes visibles sont sans spectateur. L'oreille est sans propriétaire. Les sons sont sans spectateur. Le nez est sans propriétaire. Et les odeurs sont sans spectateur. La langue est sans propriétaire. Et les saveurs sans spectateur. Le corps est sans propriétaire. Les sensations corporelles sont sans propriétaire. Le mental est sans propriétaire. Les phénomènes mentaux sont sans auteur. Et il demeure ainsi à observer le non-soi dans ces six sphères des sens intérieurs et extérieurs. Voici, Ananda, ce que l'on appelle la perception du non-soi. C'est donc de mener l'expérience, de voir qu'est-ce que ça donne si je considère que le soi n'existe pas. Qu'est-ce que ça donne si, comme le disait Nietzsche, en fait, le soi est une illusion créée par le langage, par exemple. On pourrait le comprendre autrement. Mais c'est ce que nous disait Nietzsche, c'est pour ça que je reprends. Une illusion grammaticale. On a automatiquement l'habitude de concevoir que toute perception est perçue par un sujet. Donc, automatiquement, on génère la sensation d'une existence individuelle qui est celui qui perçoit. Même en méditation, même quand tout est calme, reste, même quand il n'y a pas une pensée, reste la sensation « je médite ». Quand il reste la sensation « je médite », il reste aussi la sensation du temps et du moment juste après. Est-ce que cette sensation du temps, cette sensation du jeu, pourrait être due à la manière dont on se conçoit nous-mêmes et dont on conçoit la vie? Est-ce que si on avait une conception différente de l'existence et du temps, l'existence et le temps apparaîtraient différemment? Des pistes à suivre, des chemins de recherche. Aucune croyance à accepter, des chemins de recherche. C'est un concept qui nous est difficile d'appréhender parce qu'on vient de loin. On vient de loin parce qu'on vient. On vient de l'autre extrême. À la naissance, en fait, quand on est né, c'était notre Big Bang personnel, hein, l'accouchement, la naissance. Et là, le bébé, il est le centre de l'univers. Il est le centre de l'univers. Toute l'attention converge vers lui constamment. Hein. Ceux d'entre nous qui ont eu des enfants, on sait que c'est tout le temps. C'est tout le temps, on ne peut rien faire. C'est d'une frustration d'avoir un bébé dans la maison parfois, qu'on soit dans une discussion profonde, dans une étreinte amoureuse, en train de partager un bon repas, on interrompt tout. C'est le centre de l'univers. Et puis quand l'enfant grandit, ben, du coup, on aimerait bien qu'il quitte un peu le centre de l'univers. Ça aussi, c'est une sacrée étape, ça. Parce que bien sûr, il a envie, comme tous les savants et l'Église qui opposait Galilée, il a bien envie de rester le centre de l'univers, c'est très très confortable. Hein. Et puis alors, autour, il y a la famille qui lui dit, oui, mais non, mais quand même, on est un petit peu tous égaux ici, deux bras, deux jambes, il faudrait que tu ailles chercher du bois pour le feu aussi un petit peu. Et puis là, il y a de la vaisselle. Et là, il y a un sacré combat, en fait, pour quitter cette égocentrisme, ce centre, ce moi au centre, ce moi qui est complètement au centre, qu'on a mis au centre tout naturellement à la naissance. C'est un chemin de sortir de ça. La technique est simple, il suffit de répéter quelques millions de fois la même chose et peu à peu ça s'enregistre, l'apprentissage se fait. L'enfant quitte sa position d'enfant roi et d'égocentrisme à l'extrême. Bah, il reste des traces énormes d'égocentrisme qu'on voit toujours en nous. Hein. On n'a pas fini avec ce cheminement. Mais bon, il prend, disons, une place déjà un peu plus équilibrée dans la famille et puis dans la société. Toujours avec quand même ce gros moi au centre et moi d'abord. Et puis voilà, dans notre cheminement, de toute notre vie en fait, on essaye de prendre une place de quelque part, d'apprivoiser et de rééquilibrer cet égocentrisme à outrance. Je dis on essaye dans la mesure où on continue un chemin, parce que souvent ça s'arrête un peu après l'adolescence, à l'âge adulte, je pense. Pour beaucoup, le chemin spirituel ne démarre pas parce que, en fait, ça devient un chemin spirituel. La continuité pour quitter l'égocentrisme devient un chemin spirituel. Et là, du coup, comme je le disais, le chemin vers l'altruisme, par exemple, c'est un sacré boulot de l'esprit. C'est continuer à grandir. Sinon, on se fige. À un moment, on ne continue plus à grandir. Et puis maintenant, voilà que ça va vers le non-soi. Alors là, ça, c'est. C'est l'autre extrême de l'enfant roi et de l'égocentrisme. C'est l'autre extrême. Donc, ce n'est pas pour rien que même le concept nous paraisse peu familier, en fait. Il y a un cheminement là. Mais quand on développe le concept, c'est-à-dire quand on commence à l'intégrer et à le comprendre et à l'appliquer en méditation, parce que juste le comprendre, ce n'est pas suffisant. Il faut le comprendre et puis après ça, il faut l'éprouver. C'est-à-dire essayer de voir comment ça serait si je voyais comme ça. C'est ça les expériences de pensée. Hein, les grandes découvertes de Galilée à Einstein ont été faites comme ça, hein, par des expériences de pensée. Et Einstein, il s'imaginait dans un ascenseur et puis il se disait, qu'est-ce qui se passe si je suis dans un ascenseur qui est posé sur Terre et qui ne bouge pas? Je peux mesurer la gravité et tout ça. Mais maintenant, si on met un ascenseur dans l'espace et qu'on met une fusée en dessous et qu'on met une poussée sous la fusée, comment est-ce que je peux savoir si je suis sur Terre avec la gravité ou si je suis en mouvement dans l'espace? Ah, là, il découvrait des grandes choses. Il sentait dans son corps la poussée avec la fusée. Oui, il menait des expériences de pensée et il faisait des découvertes. C'est ça qu'on fait nous aussi. On se dit, voilà, maintenant je comprends un peu la possibilité du non-soi. Je comprends la possibilité qu'il se pourrait que ce qui témoigne de chaque perception n'est pas un jeu individuel, qui est une espèce d'attention universelle qui perçoivent tout ce qui est perceptible, y compris le corps et les mouvements de l'esprit. Ce n'est pas un jeu qui perçoit le corps et les mouvements de l'esprit. Ils sont perçus par, disons, une attention universelle, par le vide lui-même. Ça, c'est la vacuité. Quand on comprend ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'y croire. De nouveau, ça n'a aucun intérêt. Mais on peut l'essayer, cette manière de voir. Et si on voit que ça nous libère et que ça nous fait justement rentrer au plus profond de nous-mêmes, là où tout s'ouvre. À ce moment-là, c'est une manière de voir qu'on peut affiner jusqu'à ce qu'elle devienne accessible. Si on répète suffisamment, c'est comme l'enfant à qui on a répété quelques millions de fois le truc, et puis qui finalement, il le voit qu'il y a de la vaisselle dans l'évier. Il l'a fait. Un jour, ça arrive, ça. Et ben nous, de même, si on a répété suffisamment le cheminement mentalement et au niveau de la recherche et de la compréhension et de la pratique sur le coussin, de revenir à cette possibilité que j'existe d'une façon non individuelle, ou que c'est tout ce qui est perçu n'est pas perçu par une entité spécifique, je ne sais pas comment le dire pour que vous le compreniez, chacun doit mettre ses mots. À ce moment-là, on peut reprendre de plus en plus facilement cette manière de voir quand elle est utile. Elle ne le sera pas tout le temps, elle ne fonctionne pas pour aller au boulot ou des trucs comme ça. Mais il y a des moments où voir une situation à travers le non-soi permet de lâcher prise d'une façon fantastique. Et du coup, de libérer l'amour, par exemple, ou l'efficacité, ou ce qu'il y a besoin dans le moment. Donc, il faut cultiver un concept qui libère. Parce que de toute façon, c'est quelque chose, j'aimerais bien trouver plus de littérature là-dessus, mais ce que je lisais de cet enseignant qui m'inspire énormément depuis quelques années, Robert Beer, je me demande bien où il l'a trouvé, ça, mais il semblerait que dans la pensée bouddhiste, il n'y ait jamais aucune perception sans concept. Quand le Bouddha disait voir les choses telles qu'elles sont, il voulait dire vide. Maintenant, souvent, quand on dit voir les choses telles qu'elles sont, on veut dire en pleine conscience, sans ajouter la prolifération des pensées, juste la chaleur de l'eau de vaisselle. Ah, c'est les choses telles qu'elles sont. Mais en fait, déjà, ça, c'est questionnable, que la perception donne une image exacte de comment les choses sont réellement. Tout à fait questionnable, mais je ne vais pas aller par là. Mais Voilà, j'avais perdu mon fil. Donc, ce que je voudrais bien vérifier et trouver plus de ce qu'en disent les anciens, en fait, les anciens dans les littératures anciennes et dans les littératures de maintenant, c'est dans quelle mesure est-ce que, jusqu'où est-ce que la perception existe indépendamment du concept? Est-ce que la perception existe indépendamment du concept? Voilà, c'est voilà une question qui m'intéresse énormément là. D'après Rob, absolument pas. Dès qu'il y a perception, il y a un mouvement du concept. Dès qu'il y a perception, il y a mémoire. Nisargadatta Maharaj disait ça aussi. La perception n'existe pas indépendant de la mémoire. Et dans une expérience que j'entendais des neurosciences aussi, ils expliquaient comment, au moment où on est conscient de quelque chose, la perception, qui est en fait une vibration, est déjà passée par trois zones dans le cerveau, y compris la mémoire, avant qu'elle nous apparaisse, réarrangée pour qu'elle soit compréhensible. Donc le concept semble assez inévitable. Et donc, il nous faut choisir des concepts qui libèrent et les cultiver. Et mettre un peu à la poubelle certains concepts qui, par contre, nous font sentir trop isolés, nous séparent des autres, nous font trop créer de la souffrance en nous et autour de nous. Hein, c'est nourrir certains concepts et en virer certains autres. Un petit tri à faire là pour l'évolution de l'humanité. Et le non-soi est un concept, est une manière de voir qui vient tacler la possibilité d'une attitude égocentrique à la racine. Égoïste, d'égoïsme par exemple, c'est ce sens complètement surgonflé du moi, où tout événement ou toute chose est vu comme qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Eh bien ça n'a plus l'espace pour grandir si la vision du non-soi est installée. C'est plus possible. Donc c'est un concept qu'il faut cultiver, qui n'est pas un concept simple. Je me rappelle, avant, je pensais que la méditation, la spiritualité, en fait, ça devait être simple. Assez simple. Ça devrait être tout simple. Hein, c'est en nous, c'est la base. Ça devrait être une simplification à l'extrême, en fait. C'est l'esprit pensant qui complexifie tout, et juste simplifier nous donne accès à la réalité. C'est plus du tout comme ça que je le vois. Je pense que ça, je pense que c'était une simplification qui n'était pas forcément utile et ni juste. La notion qu'on va percevoir, qu'on va connaître la réalité à travers les sens, par exemple, est complètement obsolète dans ma compréhension. Justement parce que le concept, au-delà de la pensée, même le concept est actif et me fait percevoir des choses sans que j'en sois conscient. Je me suis intéressé un petit peu à l'évolution. J'ai regardé un petit peu l'histoire du zéro. Si vous avez déjà un petit peu regardé l'histoire du zéro, le chiffre zéro, c'est rigolo parce que en fait, ça nous paraît tout bête le zéro, mais c'est un sacré concept. Et il a fallu des milliers d'années pour qu'il puisse être accessible à l'esprit humain. Pas du tout évident. Maintenant, pour nous, c'est l'évidence même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est évident pour nous. Eh ben non, c'était pas du tout facile. Ça a fait partie de l'évolution de l'humain et ça a été un sacré trip. Parce que donc au début du comptage, à je ne sais quelle époque de la préhistoire, dont on a encore des traces, visiblement, l'homme ne connaissait que un et plusieurs. Il n'y avait pas deux, trois, quatre. Il y avait un, une chose ou des choses. Voilà, ça s'arrêtait là. On retrouve des traces de comptage sur des os où c'était des traces de 1. Il y avait 1, 1, 1, 1. Et ce n'était pas 4. Et puis, peu à peu, ça s'est développé. Il y a eu différents systèmes de comptage. Il y a certains qui étaient très compliqués, mais il a fallu attendre très longtemps pour que il y a la notion de zéro. La première notion de zéro, elle est venue juste pour séparer des colonnes, pour marquer un vide en deux colonnes, mais ce n'était pas un chiffre. Et c'est resté longtemps comme ça. C'est seulement au 6e siècle que le zéro est devenu un chiffre et a été inclus et a eu le même statut que les autres chiffres en Inde. L'inventeur du zéro, là, la personne qui a écrit un livre, Brahmagupta, il s'appelle. Et le livre s'appelle, sur le zéro, hein, s'appelle L'ouverture de l'univers. Et c'est un mathématicien. Et tout son livre, il l'a fait en chanson. C'est beau pour un mathématicien. Moi, je sais pas si on avait appris les maths comme ça à l'école, peut-être ça aurait mieux fonctionné. Il a fait tout son livre en chanson. Il a appelé ça L'ouverture de l'univers et c'était la création du zéro. C'est pas beau, ça? Shunyata, pour ceux qui connaissent, c'est la vacuité. Donc le zéro, c'est le symbole de la vacuité. Au niveau symbolique, au niveau de la pensée humaine, parce que les mathématiques sont un langage, les mathématiques sont un langage hyper complexe, hyper précis, et qui exprime la réalité. J'entendais dire un jour que les deux seules langues qui peuvent éventuellement s'approcher de la réalité ou qui s'approchent le plus sont les mathématiques et la poésie. Les mathématiques sont extrêmement précises pour exprimer et comprendre la réalité. C'est pour ça qu'il y a des mathématiciens comme Copernic, par exemple, qui, juste sur le papier, en calculant des trucs, arrivent à comprendre comment tournent les astres. Ou Galilée qui parle d'une étoile qu'on trouve 300 ans plus tard, parce qu'il avait calculé qu'elle devait être là. Les mathématiques permettent de comprendre la vie de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Si on regarde maintenant la physique quantique, ce n'est que du processus mathématique. On arrive à penser à des choses qu'on n'a jamais vues et à savoir comment elles fonctionnent et du coup à les utiliser. Et c'est pour ça qu'on peut se parler parce que les écrans sont créés sur des choses qu'on n'a jamais vues, comme les atomes et tout ce qui est plus petit. Donc tout ça, c'est grâce à la pensée, aux mathématiques. Et donc, Shunya, le zéro, c'est la représentation de la voûte céleste en Inde, cette forme-là. C'est comme ça qu'ils représentaient la voûte céleste, qui était pour eux la notion de vide. C'est la première fois qu'il y avait un système décimal au 7e siècle. Avant, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, ça a séduit les Arabes. Et il y a deux érudits arabes qui ont fait des livres sur le système de comptage indien. Donc ça, c'est notre histoire, en fait, ça. C'est la manière dont on pense est extrêmement influencée par tous ces événements. Et donc ces deux érudits arabes ont fait des livres qui ont voyagé, sont arrivés en Occident, ont séduit certains érudits en Occident, mais de nouveau ont rencontré un peu les mêmes problématiques que l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le zéro n'était pas du tout bien vu par l'Église, parce que c'était le néant, c'était l'inverse du grand 1. Et donc il était complètement refusé par l'Église et par les savants. Et par les savants aussi qui étaient tout à fait en désaccord en fait, avec cette notion d'absence. La définition du zéro, ça c'est intéressant, donnée par Brahmagupta, c'est la soustraction d'un nombre par lui-même. C'était ça. C'est à partir du moment où il y a une définition qu'il a pu devenir un nombre. C'est la soustraction d'un nombre par lui-même. C'est comme ça qu'on déterminait l'absence, le vide. Et il a fallu attendre le XIIIe siècle pour que, chez nous, le zéro soit accepté. Alors, d'ici là, on comptait avec les chiffres romains, ce qui n'était pas du tout pratique. Et si vous voyez les chiffres romains, essayez un peu de faire la multiplication de 8 fois 32 en chiffres romains. Vous allez voir, c'est pas du tout pratique. Et en fait, d'ailleurs, si le zéro a été accepté, c'est parce que les marchands, ils adoraient ça. Ils pouvaient faire des grands chiffres et tout avec. Alors que sinon, c'était très compliqué. Donc, ce concept de zéro, ce concept de vide, ce concept de néant, il n'est pas facile à acquérir. Et nous, en tant qu'individus, part d'une évolution, on en est là. On en est toujours avec cette difficulté à imaginer qu'il se pourrait qu'il y ait rien. Et que ce rien soit le conteneur de toute chose. Notre essence. Le concept de ça est toujours en pleine formation. Une autre histoire, une histoire maintenant qui vient du bouddhisme. C'est l'histoire d'un sadhu, qui s'appelle Bhaiya, et qui était très connu dans son coin, très respecté. Les gens amenaient des offrandes et tout ça pour qu'ils puissent manger et puis pour qu'ils puissent continuer. C'est très important en Inde qu'il y ait suffisamment de gens qui explorent la spiritualité. Et donc, il leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer. Et Bhaiya, un jour, se demande si ça y est, s'il est illuminé ou pas. Et il se demande, est-ce que je suis à la fin du chemin ? Il devait se sentir bien ce jour-là, il devait se sentir très ouvert, très, très illuminé, une compréhension phénoménale, quelque chose d'extrêmement posé. Et il se fait, ça y est, ça se trouve, c'est ça en fait, j'ai atteint la fin de ma recherche. Et la nuit, dans un rêve, il est visité par une déesse qui lui dit, écoute Bhaiya, j'ai entendu que tu te posais la question de savoir si t'avais atteint la libération ultime, l'illumination, la réalisation. Et donc, je viens pour te dire que non. Pas du tout. Et alors Bhaiya lui dit, dans son rêve, il lui dit, mais non, elle continue, elle lui dit, il faut aussi que je te dise, Bhaiya, en fait, non seulement tu n'as pas atteint l'illumination que tu cherches, mais la manière dont tu pratiques n'est pas la bonne et tu ne l'atteindras pas. Et alors il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un peut m'enseigner? Elle lui dit, oui, il y a un homme qui est dans la ville de Saviti, je pense, je suis plus sûr du nom, et qu'on appelle le Bouddha, et qui peut te montrer le chemin de la libération. Donc Bhaiya, qui devait être quelqu'un quand même d'assez motivé et dédié à la recherche spirituelle, il peut tout à fait l'entendre, ça, visiblement. Il fait ok, bah, toutes ces années où j'ai pratiqué, ok, c'était pas ça, d'accord. Bon, bah, je vais aller voir le Bouddha, alors, et je vais lui demander un petit peu comment il faut que je m'y prenne. Et donc, vous imaginez déjà comme il est l'authenticité de son longing, de son désir de libération pour être à même d'entendre ça, d'entendre que tout ce qu'il avait pratiqué, ce n'était pas le bon chemin et qu'il fallait faire autre chose. Il fait son petit baluchon, il part voir le Bouddha. Le Bouddha est en train de de manger, de mendier, et lui dit Bahia, là, c'est pas le moment. Puis alors, Bahia insiste, il lui dit Oh Bouddha, s'il te plaît, ben, pour mon bien-être, le bien-être de tous les êtres vivants, personne ne sait. Quand sera la fin de tes jours, ni quand sera la fin de mes jours, je ne peux pas reporter. Enfin, quelque chose dans le genre, s'il te plaît, enseigne-moi, enseigne-moi. Et là, Bouddha, de nouveau, lui dit, bah, c'est pas trop le moment, là, je suis en train de manger ou je suis en train de mendier. Du coup, il insiste encore et la troisième fois, le Bouddha lui fait OK. Parce qu'ils disent toujours OK après trois fois en Inde. Ça fait partie de la tradition. Donc le Bouddha dit OK. Bahia, alors regarde, regarde comment il faut que tu t'y prennes. Il dit, et il lui dit comme ça, pratique de cette façon Bahia. Il commence comme ça. Pratique de cette façon Bahia. Dans ce qui est vu, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai lu auparavant. Il lui redit la même chose, mais d'une façon un peu différente. Dans ce qui est vu, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Dans ce qui est entendu, qu'il n'y ait que ce qui est entendu. Dans ce qui est ressenti, qu'il n'y ait que ce qui est ressenti, et dans ce qui est dans tout ce qui est pensé ou imaginé, qu'il n'y ait que ce qui est pensé, imaginé. Et quand dans ce qui est vu, il n'y aura que ce qui est vu, quand dans ce qui est entendu, il n'y aura que ce qui est entendu, quand dans ce qui est ressenti, il n'y aura que ce qui est ressenti, et dans ce qui est pensé, il n'y aura que ce qui est pensé, à ce moment-là, il n'y aura pas, and there is no you due to that, il n'y aura pas un toi dû à ça, il n'y aura pas un je dû à ça. Il n'y aura que ce qui est vu, que ce qui est entendu. Il n'y aura plus un je qui entend. Et quand il n'y aura pas un je qui entend, alors il n'y aura plus aucune présence d'un je. There is no you there. Il n'y aura plus la présence du je. Pratique de la sorte, Bahia. Et cela te mènera à la fin de la souffrance. Donc là, le Bouddha parle d'un entraînement à voir comme si les choses existaient par elles-mêmes sans qu'il y ait une entité qui les perçoive, sans qu'il y ait un sujet. Hein, pour revenir à Nietzsche, sans qu'il y ait un sujet. Cette habitude de penser que dès qu'il y a quelque chose de perçu, il y a quelque chose qui perçoit. Pour Nietzsche, qui était une attitude, qui était une manière de penser, un concept. Dans ce qui est vu, qu'il n'y ait que ce qui est vu. Ne pas rajouter, même au niveau de la sensation, un je qui perçoit. C'est absolument, totalement contre-intuitif. Totalement contre-intuitif. Là, on est ailleurs, là. Krishnamurti disait, est-ce qu'il est possible de penser sans un centre, de percevoir sans un centre? Donc la méditation qu'on va pratiquer là, est une méditation qui vient directement de ce style, qui est une manière de méditer pour peu à peu se familiariser avec cette manière de voir, pour en faire une expérience de pensée. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, si j'essaye de voir les choses comme existant par elles-mêmes sans y rajouter le je qui perçoit, qu'est-ce que ça donne? C'est de mener une expérience. Et au début, c'est très différent d'une méditation où on s'installe dans un espèce de silence qui est, pour ceux qui méditent depuis suffisamment longtemps, qui est assez accessible et suffisamment confortable. Ici, c'est il y a une il y a c'est C'est très, c'est une méditation qui est complexe à mettre en place au départ. Pourquoi? Parce que y a une manière de le faire qui est de dire chaque chose qui se présente, on dit elle est vide, empty, empty, empty. Donc on voit chaque chose comme étant vide, vide d'existence indépendante ou dépendante de la perception. Là, je vais complètement ailleurs de nouveau, mais dépendant de la perception pour exister, quelle que soit la manière de voir chaque chose comme étant vide, demande une philosophie derrière. Juste le mot vide veut dire énormément de compréhension par derrière. Le sous-texte de ce que veut dire vide est énorme. C'est des années peut-être de réflexion pour avoir compris ce que voulait dire. Et ici, ce qu'on va pratiquer, c'est de voir chaque chose en essayant d'induire la sensation, ni moi, donc ceci n'est pas moi, ceci n'est pas à moi. Donc cette pensée n'est pas moi, je suis en méditation, une pensée émerge. Ma sensation d'exister n'est pas contenue dans la pensée. Et ce n'est pas ma pensée. J'essaye de la voir comme ça. D'habitude, instinctivement, on va faire, ah, c'est ma pensée. Parfois même, on va dire, je pense. On ne sait pas très bien qui c'est, le je qui pense, mais intuitivement, on va faire, je pense. Okay? Là, on change notre manière de percevoir. Une pensée émerge, on voit une pensée qui émerge. Pensée. Juste penser. Comme Thich Nhat Hanh disait, il pleut, c'est quoi le il? Il vient d'où le il? Le sujet il. Pluie. Pluie dit tout à propos de ce qui se passe. Penser, pas je pense. C'est une erreur grammaticale. Du, c'est pas une erreur grammaticale, mais c'est une erreur due à notre forme de manière de conceptualiser. De notre grammaire. Donc là, on essaie de voir penser, pas je pense. Son. En essayant de retirer la sensation j'entends. Totalement contre-intuitif. Une méditation qui prend du temps si elle vous parle, qui prend du temps à maîtriser. Je dis souvent apprendre à méditer au départ, quand les gens arrivent au début de la méditation, de ramener l'attention sur la respiration, elle repart sur le... On a l'impression qu'il y a énormément de choses à faire. C'est comme apprendre à conduire une voiture, il faut du temps. Alors, au départ, il faut regarder la route, il y a les vitesses, il y a tellement de choses à gérer, c'est trop énorme. Et puis après ça, ça devient un peu automatique. Ici, c'est comme apprendre à conduire un hélicoptère. C'est beaucoup plus compliqué que d'apprendre à conduire une voiture. Cette méditation, elle est complexe, mais sa complexité promet aussi une grande liberté. Donc cette méditation, c'est mener une expérience, c'est essayer de voir différemment, c'est essayer de voir d'une façon qui au départ est contre-intuitive, et on peut faire ça avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire qu'on va s'installer en méditation, on peut, je vais guider, de toute façon, je vais guider toute cette méditation, et puis on peut, dans la méditation, de temps en temps essayer, puis de temps en temps lâcher, puis de temps en temps essayer, puis de temps en temps lâcher. Je pense que c'est une bonne attitude, ça. Et puis, si l'idée d'apprendre une autre manière de voir, qui pourrait éventuellement ouvrir le cœur et libérer, si cette idée vous plaît, à ce moment-là, vous pourrez de temps en temps utiliser, vous aurez les enregistrements et tout ça, hein, vous pourrez de temps en temps utiliser cette forme et puis la faire vôtre, en fait. Du coup, vous aurez votre guidance intérieure qui sera probablement très différente. Et l'inclure dans votre pratique pour que peu à peu vous deviez familier avec cette toute autre manière de voir, de décoder l'expérience, d'interpréter l'expérience, de créer l'expérience.